comme d'autres philosophies, l'épicurisme est une doctrine qui effectivement est associée au nom d'un personnage qui effectivement est à connaître. Donc Épicure, oui, c'est un personnage assez atypique par rapport aux grands philosophes, comme on dit, de l'Antiquité, qui étaient des gens, disons, de bonne famille. Platon était de famille princière, Aristote était très riche aussi, et d'autres philosophes connus également. Alors que, en ce qui concerne Épicure, lui était fils de colon, il a vécu son enfance dans l'île de Samos, qui est maintenant turque, et il a connu l'exil, puisque, pour des raisons politiques, les Grecs ont dû laisser leur place et retourner en métropole, disons. Et donc, il a connu le sort qu'ont connu, pour nous, les Français d'Algérie, quoi, les pieds noirs. Et donc, il est arrivé à Athènes, pratiquement sans un sou, très pauvre en tout cas, et il a eu du mal à se faire suivre des études, à s'intégrer à la société, encore qu'on ait peu de renseignements, puisqu'on perd ses traces pendant une dizaine d'années. On sait qu'il a fait des études, on le sait par des témoins de l'époque, et qu'il a effectivement fréquenté des grandes écoles philosophiques qui existaient à Athènes, avant lui-même de fonder son école, qu'il a appelée l'école du jardin, tout simplement parce qu'elle s'est trouvée en dehors d'Athènes, dans un endroit tout à fait champêtre, quoi, et c'est devenu pour tous l'école du jardin. Et il a enseigné pendant 35 ans, jusqu'à sa mort pratiquement, avec beaucoup de monde, de conditions variées, souvent même modestes.
Qu'est-ce qui fait qu'Épicure a fondé sa propre école de philosophie ? C'est quoi les piliers de la pensée d'Épicure ?
La pensée d'Épicure, c'est la philosophie du plaisir. Mais justement, déjà de son vivant, on l'a méprisé, on l'a ridiculisé, on l'a critiqué, parce qu'on a pensé, on a voulu lancer l'idée que pour les épicuriens, tous les plaisirs étaient bons et que c'était en gros quoi la débauche qui était conseillée. Alors que c'est pas du tout ça. Épicure est quelqu'un qui effectivement considère que la vie humaine doit s'organiser autour du plaisir et par le plaisir, mais bon, le plus souvent et de façon préférable, ça doit être un désir calculé, maîtrisé, pas n'importe quel plaisir, n'importe quand, n'importe comment, bien dosé. Donc il y a tout un calcul, toute une gestion du plaisir qui est proposée par Épicure et qui a encore son intérêt de nos jours, bien sûr.
Alors comment peut-on bien gérer son rapport au plaisir ?
C'est-à-dire que il faut bien se connaître soi-même, il faut savoir déjà profiter des petits plaisirs, les plaisirs qu'il appelle naturels et nécessaires. C'est-à-dire que bon, si on attend d'avoir bien soif avant de boire, il nous dit déjà, et ça reste vrai, un verre d'eau peut causer un très grand plaisir. Si par contre, comme on dit familièrement, on boit sans soif, bon, on n'éprouve même plus le plaisir. Donc déjà, commencer par des petits plaisirs, et puis de toute façon, éviter de se rendre dépendant du désir et du plaisir. C'est-à-dire que, bon, par exemple, ce qu'on appelle aujourd'hui les addictions sont présentées par Épicure comme le grand piège, quoi. Si un plaisir risque d'entraîner pour moi une addiction, il faut que je réfléchisse sérieusement pour savoir si je n'ai pas intérêt à refuser ce plaisir, parce qu'effectivement, il peut être par la suite la cause de graves désagréments, de maladies, et peut-être même plus. C'est la gestion du désir pour un plaisir simple et de façon libre, puisque la philosophie d'Épicure est une philosophie de la liberté.
Ça veut dire qu'Épicure recommande d'avoir une vie dirigée vers le plaisir, enfin profiter de la vie tout en étant maître de son désir.
Voilà, oui, c'est ce que reprend, j'ai connu la formule latine de Lucrèce, Carpe diem, cueille le jour, repris à la Renaissance, effectivement, profiter du moment qui passe, bien sûr, mais en profiter intelligemment, quoi, pas de façon, j'allais dire, bestiale, parce qu'à l'époque d'Épicure, il y avait une philosophie qu'on appelle les cyrénaïques, qui, eux, étaient partisans du désir, à fond, c'est-à-dire profiter de la vie au maximum. Bon, la vie est courte, on ne vit qu'une fois, et donc il faut s'adonner à toutes les expériences, même les plus périlleuses, qui peuvent nous procurer du plaisir. Bon, ça, Épicure le refuse complètement, il ne veut pas de cette frénésie du désir, il veut un désir de préférence calme, en tout cas toujours maîtrisé. On dispose de notre raison, on sait ce qui peut nous faire du bien, vraiment, mais agissant en conséquence. Sa philosophie, est assez conséquente, assez complexe, mais il nous reste des lettres d'Épicure. La plus célèbre, dont je parlerai, c'est la lettre à Ménécée. Ménécée, c'est le nom du disciple, quoi. Et c'est une lettre qui est pleine de conseils très précis, très simples même, pour bien gérer son existence, enfin la gérer au mieux. Et donc il y a encore une actualité, justement, malgré tout, de cette philosophie.
Épicure et ses disciples, les épicuriens, sont souvent caricaturés. Ils ont même eu une réputation sulfureuse. Est-ce que c'est parce qu'on a pu confondre le plaisir et le désir d'Épicure avec un plaisir sexuel, une sexualité débridée ?
Oui, tout à fait. Alors oui, tout à fait. Il y a des raisons politiques qui ont fait qu'on a voulu, des querelles d'école déjà du vivant d'Épicure. C'était un métèque, quoi. Je vous l'ai dit, c'était un immigré, il n'était pas grec de souche, donc peut-être pas les directeurs des écoles philosophiques, mais les concurrents, quoi, l'ont très vite dénigré. Et puis en même temps, après, effectivement, on a valorisé essentiellement la philosophie de Platon au début de notre ère, quoi, essentiellement donc le christianisme, quoi. C'est accroché, si on peut dire, à Platon, et à considérer que la philosophie d'Épicure était d'une part peut-être scandaleuse, enfin pour certains, et d'autre part de peu d'intérêt. Ce qui fait qu'il a été très peu recopié. Et donc on a très peu d'éléments directs de sa philosophie, à la fois par mépris, par négligence, et puis, par rejet, quoi.
Oui, la pensée d'Épicure ne pouvait pas s'accorder avec un certain moralisme de l'Église catholique.
Si on l'avait prise au sens de la lettre, oui, c'était possible. Il y a eu des tentatives, d'ailleurs, au XVIIe siècle, à l'époque de Descartes. Il y a un prêtre intellectuel, Gassendi, qui a essayé justement de réhabiliter Épicure. Il a essayé, mais enfin, il a eu beaucoup de mal, parce qu'effectivement, les gens étaient encore, axés sur cette philosophie qui est la base, effectivement, ou en tout cas une des bases les plus anciennes, les plus solides de la pensée occidentale, c'est le platonisme et puis Aristote, quoi. Donc c'est vrai que Épicure n'a pas eu de succès, le succès, la notoriété, la reconnaissance, il aurait bien fallu attendre le 19e siècle ou le 20e pour que ça vienne, quoi, à mon avis.
Et qui s'est réintéressé à Épicure au 19e siècle et au 20e siècle? Enfin, qui a sorti Épicure du purgatoire de la philosophie?
Eh bien, essentiellement les matérialistes, parce que Épicure se revendique comme matérialiste, et donc il y a un grand nom, c'est Karl Marx, qui, on le sait probablement, était philosophe de formation, et qui a fait sa thèse de doctorat sur la philosophie d'Épicure. Le texte nous est disponible encore. Donc Marx a travaillé sur Épicure. Comme Marx avait quand même assez d'audience, finalement, ça a un petit peu aidé. Puis d'autres philosophes matérialistes après, au XXe siècle, effectivement, tout le courant matérialiste a plus ou moins, même des physiciens qui ont trouvé qu'Épicure avait eu des intuitions, on va dire, assez prémonitoire et génial, parce que le matérialisme d'Épicure, c'est ce qu'on appelle l'atomisme. Il a eu l'idée, alors ce n'était pas lui, parce qu'il y avait quand même quelqu'un avant lui qui l'avait déjà indiqué, mais lui, il la développe, l'idée que tout dans l'univers est matière, et que cette matière est composée d'atomes. Donc c'est ça, l'atomisme. Donc. Et la façon qu'il a de décrire l'atomisme est assez, on va dire, littéraire, quoi, parce qu'à l'époque, on peut parler de démarches scientifiques, mais certains scientifiques du XXe siècle, notamment, ont eu connaissance d'Épicure et ont dit, ont écrit, qu'effectivement, Épicure avait déjà... sans le faire exprès peut-être, eu des intuitions prémonitoires ou de génie, quoi. Pré-scientifique, bien sûr, mais tout à fait juste.
Épicure enseignait sa pensée dans son jardin, dans la Grèce antique. En 2016, qu'est-ce qui fait que la pensée d'Épicure est toujours d'actualité ?
Ben écoute, elle est d'actualité sans l'être, je dirais, bon, parce qu'il y a des auteurs comme Michel Onfray, Marcel Conche, et qui effectivement ont écrit des livres, et puis, enfin, elle est d'actualité de façon un peu fragmentée ou fragmentaire, je dirais, parce que ce que propose Épicure dans son art de vivre, on le retrouve dans le goût, par exemple, de certains jeunes et moins jeunes, pour la proximité de la nature, l'écologie. Ça, c'est tout à fait compatible, elle fait même partie de l'enseignement d'Épicure. Donc quelqu'un qui aime la nature, qui aime vivre simplement dans la nature, auprès de la nature, c'est épicurien. On assiste aussi aujourd'hui à un certain désintérêt de la politique. Épicure, il s'est fait critiquer justement beaucoup là-dessus, était... pour l'abstentionnisme en politique, pour l'individualisme pratiquement, on lui reprochait aussi, que chacun vive, il n'y a rien à attendre de l'État ni des politiques, donc c'est pas la peine de se déplacer pour voter, que chacun se débrouille, alors pas tout seul, un troisième élément c'est l'amitié, la filia dont j'ai parlé lors de la précédente causerie, une des vertus principales pour Épicure c'est l'amitié, entretenir des relations donc avec les autres, avec des gens choisis. Donc ça, vous voyez, ça fait partie, on trouve ça aujourd'hui, puis ben, ajoutons-y bien sûr le plaisir, qui bien sûr a de tout temps est considéré malgré tout par la plupart des gens comme une valeur importante. Ben, on a donc des bribes d'épicurisme dans les mentalités contemporaines, et comme je dirais, c'est un petit peu comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, chez Molière. Il y a beaucoup de gens qui sont en partie épicuriens ou qui ont quelque chose d'épicurien, peut-être sans le savoir.
Est-ce qu'on peut dire qu'en 2016, en caricaturant un petit peu, dans notre société de consommation, où on nous encourage à céder à nos désirs le plus souvent, la pensée d'Épicure peut nous aider à trouver un équilibre ?
Oui, tout à fait, à mesure où c'est, comment dire, l'incitation à trouver son équilibre, trouver son plaisir dans la simplicité, quoi. C'est ça un petit peu le message d'Épicure, la simplicité, c'est pas la peine de... chercher la complication ni au niveau des idées, ni au niveau des théories, ni au niveau de l'organisation de sa vie. Les choses les plus simples, là aussi, je pense ne pas trahir la pensée d'Épicure, les choses les plus simples sont souvent les meilleures. Donc, si on arrive à se convaincre de ça et à convaincre d'autres personnes de ça, Épicure dirait, ben, on fait bien parce qu'effectivement, on vit mieux et justement, on tourne le dos, alors pas totalement, mais en partie à ce que vous avez dit de la société de consommation, oui.